OK, on est de retour dans l'avant-match. Un gros merci d'être à l'écoute de cette émission. Votre présence est très appréciée. On va jaser maintenant sport et business avec l'expert sport et business pour le réseau Cogeco. Vous le voyez également à RDS. C'est Ray Lalonde qu'on joint à l'instant sur la ligne. Ray, vous pouvez l'entendre sur son podcast Focus chaque matin via les plateformes YouTube. Sur son Twitter également, Ray Lalonde. Toujours intéressant de le suivre. Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Dan.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci, toi.
Oui, ça va bien, merci. Évidemment, quand un athlète signe un contrat avec les Angels de Los Angeles, moi, j'ai encore la vieille mentalité de penser que c'est les Angels d'Anaheim, les Angels de Los Angeles à Anaheim. Maintenant, Mike Trout s'entend pour 430 millions pour 12 ans. Ça transcende l'aspect frapper une balle puis courir après une balle comme voltigeur. Il y a un aspect business qui entre en ligne de compte rapidement dans un contrat comme ça, là.
Oui, c'est sûr que les Angels, Dan, il y a plusieurs facteurs qui ont motivé le propriétaire Arte Moreno à faire ça. La première, c'est que, personnellement, moi, je crois que les Angels sont toujours seconds dans le marché du sud de la Californie vis-à-vis des Dodgers. Et ils doivent constamment faire des efforts supplémentaires et quasiment herculéens pour toujours rester, si on veut, kiff-kiff et à égalité avec les Dodgers. On sait que les Dodgers ont une bonne organisation, une équipe prestigieuse, mais ils ont aussi atteint les séries mondiales les deux dernières années. Donc, ils ont une longueur d'avance. Et si les Angels veulent demeurer pertinents, ils se devaient, il y a quelques années, de signer Albert Pujols. Et là, ils se devaient de ne pas perdre Mike Trout, que je considère comme le meilleur joueur
absolument,
de baseball.
Absolument, c'est le meilleur, oui. Mais il ne fallait pas le perdre, mais en même temps, il n'y avait pas d'autre option que de lui donner autant que ça.
Ben, tu sais, la somme totale...
C'est l'offre et la demande rendue là? Ou...
Absolument, mais la somme totale de 430 millions ou plus, là, c'est relatif, c'est 12 ans. Ça revient à 35 millions quelques par année. C'est beaucoup d'argent.
Oui.
Je veux pas minimiser que c'est un chiffre astronomique. Mais d'un autre côté, je suis obligé d'admettre que dans 6-7 ans, là, les contrats vont être rendus à 45-50. Ça va être une aubaine d'avoir Mike Trout dans ton équipe.
Okay.
Et ils l'ont fait de façon stratégique en se disant... Pourquoi il finirait pas sa carrière, il jouerait pas sa carrière au complet dans l'uniforme des Angels?
OK, parfait. Évidemment, parallèlement à ça, c'est facile de faire le parallèle. L'athlète de hockey qui gagne le plus d'argent ou le plus gros contrat signé à l'époque, je pense que c'était Alexander Ovechkin avec 124 millions pour 13 ans. Puis on a vu des comparatifs passer cette semaine sur les réseaux sociaux d'un athlète de basketball ou d'un autre de football.
Oui.
Mais est-ce que il y a, selon toi, un athlète actuellement sur la scène internationale qui pourrait mériter, ou quel athlète pourrait mériter un plus gros salaire que Mike Trout, ou peut-être que la réponse est Mike Trout, en fonction de ses performances, mais aussi de son potentiel marketing?
Alors, ça, Dan, là, c'est parmi toutes tes excellentes questions depuis des années qu'on fait ça ensemble, là, je te dirais que celle-là, c'est une des questions les plus fascinantes.
Okay.
Et on pourrait faire un bloc de 30 minutes ensemble.
Juste là-dessus,
c'est sûr. Puis moi, j'ai une opinion assez, ce que j'appelle diversifiée sur un sujet comme celui-là, parce que je suis obligé de considérer les sports de consommation connus et d'essayer de mettre des pommes avec des pommes en termes de sport d'équipe, sport individuel, en termes de sport masculin ou féminin, Europe, mondiale et Amérique du Nord, bien entendu, et de regarder un peu comment ils livrent les résultats. Alors, si tu regardes un athlète individuel, même Steph Curry dans la NBA, on n'a pas entendu parler d'un contrat de 400 millions de dollars, mais il gagne 37,5 par année.
Oui.
C'est plus que Mike Trout.
C'est vrai.
Et James Harden, l'an prochain, va gagner 42,3 avec les Rockets. Il n'a toujours pas gagné de championnat, James Harden. Et lui aussi va dépasser le 35 en moyenne de Mike Trout.
OK.
Alors, ces gars-là vont jouer 162 matchs au baseball, 82 matchs au baseball ou au basketball ou au hockey.
Oui.
Et ils ont un contrat relativement garanti. Cependant, moi, je regarde les athlètes individuels, par exemple, au golf ou au tennis, où l'athlète doit performer pour avoir une bourse.
Oui.
L'athlète doit se classer top 10, top 15, top 5 et gagner pour récolter les grosses sommes d'argent.
Et au golf, c'est pire que ça, c'est que si tu fais pas les rounds du week-end, t'as pas de chèque.
T'as pas de chèque. Et les joueurs de golf, j'en connais plusieurs jeunes qui sont venus me voir à plusieurs occasions pour des conseils avec leurs parents ou avec leurs agents, à savoir comment on met en marché un jeune golfeur qui veut percer sur le web.com tour ou éventuellement gagner sa carte pour la PGA Tour, bien sûr. Il y a des Québécois de haut niveau.
Oui.
Il y en a qui percent dans la NFL, il y en a qui percent dans la NCAA, il y en a qui percent dans la Ligue nationale, et il y a des golfeurs et des joueurs de tennis. On a des exemples de joueurs de tennis, on va en reparler. Mais au golf, si le joueur est en début de carrière, il se promène en voiture de location
oui.
d'un tournoi à l'autre, il se classe ou il ne se classe pas pour le week-end, il obtient une invitation, une exemption pour participer, il habite dans des motels 6,
oui.
il mange un peu du fast-food parce que c'est coûteux si tu ne gagnes pas.
Exact.
Donc, je renverse la question en disant, parmi tous les athlètes, lequel offre ce qu'on appelle en anglais, Dan, « the best bang for your buck ». Et ça veut dire qu'il te donne la meilleure valeur vis-à-vis ce que ça coûte et les succès remportés.
Pour l'argent investi. Okay,
et il y en a
parfait.
Deux.
Oui, il y en a deux. Okay.
Novak Djokovic, Rafael Nadal.
Okay.
Et la simple raison, c'est
plus que Ronaldo, exemple,
plus,
Ray?
Plus.
OK.
Parce que Ronaldo gagne une tonne d'argent en salaire. Et Nadal et Djokovic, dans une année extraordinaire, numéro un, numéro deux au monde, des grands chelems et des tournois Masters 1000, si c'est extraordinaire, ils font 10 millions dans l'année. Toi, tu vas me dire, Ray, 10 millions, c'est quand même pas mal d'argent. Mais non, ces gars-là, c'est un et deux au monde.
Oui.
Depuis une décennie ou plus,
oui.
c'est des gars qui ont toujours le devant sur toute la génération qui pousse. Les tournois, c'est toujours les plus favoris. C'est tous les gens à la télé regardent à cause de ces deux-là. Oui.
Donc, 10 millions, c'est pas assez en salaire.
Mais non, ces gars-là mériteraient facile. Et là, je parle uniquement en bourse de succès sur le terrain de tennis.
Je comprends.
On ne parle pas de Nike, on ne parle pas de Lacoste pour Djokovic, on ne parle pas de Uniqlo pour Federer.
Oui.
Je parle uniquement des bourses gagnées. Facilement, ça vaut 50 millions ou plus, ces deux-là. Et Federer pourrait se rajouter à ce groupe-là, quoi qu'il gagne un peu moins ces temps-ci, pour la simple raison que gagner le US Open, Wimbledon, Roland-Garros, tu t'en tires avec 2-3 millions, c'est super, mais ces deux semaines, il a fallu que tu battes 7 adversaires, et il faut que tu... C'est quand même le catalyseur que tout le monde regarde à la télé et que tous les gens achètent les billets pour te voir à l'œuvre. Et ça, il n'y a aucun sport où tu peux mesurer résultats avec argent gagné, parce que s'ils perdent plus tôt, ils ne sont pas payés. Et là-dessus, il n'y a pas de doute que les sports individuels comme ça, golf deuxième et tennis premier,
okay.
offrent le meilleur résultat pour ton dollar.
Parfait, fort intéressant. Je veux, par contre, souligner une évidence qu'on a constatée cette semaine avec la signature de Mike Trout. Je ne sais pas si les auditeurs à l'écoute de mon émission ce soir sont au courant, mais avec la signature de Trout, les 10 plus hauts salaires annuels dans le sport professionnel d'équipe en Amérique du Nord, dans les 4 sports principaux dont on parle tout le temps, mais les 10 premiers, c'est des joueurs de baseball.
Non, mais là, je viens te dire que Steph Curry gagne 37,5 cette année. Alors, si tu parles des 10 plus gros contrats...
Ah, OK. Ouais,
oui,
c'est vrai. OK, moyenne annuelle, Curry est dedans. OK, je comprends.
Oui, puis...
OK, les 10 plus gros contrats. Mais je voulais faire un lien entre ce que Trout a eu ou ce que Machado a eu, peu importe, Harper. Là, il y a des gens qui regardent ça et ils disent, Caroline, 35,7 millions par année. Pourquoi Crosby gagne juste 9 ou 10 puis McDavid juste 12,5? C'est quand même assez paradoxal. Et je préparais mon pool de baseball dans les derniers jours avec une gang de chums depuis 26 ans maintenant, je fais un pool de baseball. Ça va être samedi de la semaine prochaine. On a bien du fun avec ça. Puis je voyais qu'un gars comme Yan Desmond, voltigeur des Rockies du Colorado, Ray, qui gagne 22 millions par année.
Ouais, ouais.
À peu près personne qui suit pas trop le baseball connaît ce joueur-là.
Absolument. T'as raison. Puis il y a deux volets à ta question, puis deux volets à la réponse.
Okay.
La première, c'est que ce qui est étonnant, c'est que les joueurs de baseball comme Mike Trout, qui gagne maintenant 35 points quelques cette année, là.
Oui.
Lui, hors terrain, ses gains commerciaux totalisent 2,5 millions.
OK.
Et ça, ça inclut Rawlings et Nike.
OK. C'est peu,
très peu. Ben oui, c'est okay. pour te dire qu'au baseball, il y en a peu d'argent disponible au niveau commercial.
Parfait.
Donc là, ça explique ça. Parce que même Sidney Crosby, Connor McDavid font plus que 2,5. Carey Price fait plus que 2,5 en gains hors glace.
Oui.
Bon. La deuxième partie de la réponse, c'est que la business du hockey n'est pas celle de la business du baseball. Donc, l'argent disponible, non seulement dans le baseball, Dan, il n'y a pas de cap salarial, mais dans le hockey, ils n'ont pas les moyens de payer des salaires comme ça.
Et les moyens, Ray, ça vient particulièrement des réseaux de télé?
Oui.
OK.
Je te dirais que dans le baseball, le modèle économique, de façon très simple, il y a un partage de revenus. Il y a des faibles qui récoltent de l'argent qui vient des riches. Il y a des taxes lorsque les équipes comme les Yankees, les Dodgers, les Cubs et les Red Sox dépassent le seuil. C'est pas un cap salarial, c'est pas un plafond, c'est un seuil. Ce qu'on appelle en anglais un threshold. Puis une fois que tu as dépassé ce montant-là, tu es taxé et ça coûte cher. Ça permet aux équipes plus faibles de récolter des sommes d'argent. Et c'est un des problèmes, Dan, dans le baseball, c'est qu'il y a peu de motivation pour beaucoup d'équipes d'aller plus loin et d'en dépenser plus, parce que de toute façon, ils savent très bien qu'ils ne surmonteront pas les Yankees ou les Red Sox ou les Cubs. Et pourquoi en dépenser plus? Tant qu'à faire de l'argent, on va recevoir le chèque du partage des revenus, on va être tout à fait satisfait de finir troisième, quatrième au classement sans faire les séries.
OK, parfait. Restons dans le baseball. On vient de parler de Trout et on a bifurqué sur quelques sports, mais la saison du baseball majeur a débuté hier et aujourd'hui au Japon. Très bel hommage fait à Ichiro Suzuki ce matin quand il a chuté en huitième. C'était fascinant de voir ça. C'était très émouvant. Est-ce que on peut dire que Ichiro a sauvé la mise ou à la base, c'était une bonne idée d'aller débuter au Japon?
Honnêtement, pour le baseball, je comprends pourquoi ils le font. C'est effectivement ponctuel de rendre hommage à Ichiro. Ça, c'est un des grands joueurs du sport qu'on n'a pas souvent l'impression qu'il mérite, qu'il obtient l'attention qu'il mérite. Exact. Ça, c'est clair. Oui. Il est un peu oublié, mais tout un joueur de baseball depuis le début, depuis son arrivée là, comme jeune.
En 2001, oui.
Mais il y a une chose qui est claire, c'est que moi, je suis pas sûr que les gens étaient allumés et au diapason que la saison de baseball débutait officiellement. Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est encore dans les camps d'entraînement. On a toujours l'impression qu'on n'a pas eu nos matchs au Stade olympique impliquant les Blue Jays. Ça va être la semaine prochaine.
Oui.
Alors, moi, j'ai pas eu le feeling aujourd'hui que c'était le début de la saison de baseball. Et ça me dit que le baseball a raté son coup dans cette explosion, cette annonce qu'on lance. Ça se peut qu'au Japon, tout le monde était prêt pour ça. Puis ça se peut que dans le marché des deux équipes en question. Mais de lancer ça avant, pendant que tout le monde est dans des matchs d'exhibition, je trouve que le timing est off un peu. Il aurait fallu coordonner puis avoir plus de synergie dans ce lancement-là.
OK, parfait. Parlant de lancement, aujourd'hui, on a lancé le March Madness aux États-Unis. C'est la folie du basketball universitaire. 64 formations qui rivalisent depuis ce matin jusqu'au 8 avril où à Minneapolis, au Minnesota, on va tenir le match de championnat. Ce sera un lundi soir. Qu'est-ce que tu retiens? Toi, tu as travaillé aux États-Unis. Qu'est-ce que tu retiens du March Madness?
Le March Madness, c'est comme la saison des bowls, c'est-à-dire en janvier, décembre-janvier, là où c'est la culmination de la saison de football universitaire. Là, c'est le March Madness, trois semaines, trois gros week-ends, ça se termine avec le Final Four. Il n'y a rien d'aussi accaparant pour le fan de sport américain dans son ensemble que ce phénomène de Final Four. C'est-à-dire, pour l'avoir vu à deux reprises de mes yeux sur place, je peux te dire là, que c'est quelque chose d'assez unique. Mais là où ça dépasse la logique, c'est ce que CBS et Turner payent pour les droits de télé. Parce que Dan, là, on est rendu là une entente de 22 ans, de 2010 qui a été prolongée, puis ça s'étend jusqu'en 2032, à 19,6 milliards de dollars US.
Wow.
C'est quasiment 1 milliard par année pour un tournoi de 3 semaines. Ça, c'est pas pour la saison de la NCAA au complet. Là.
Non.
C'est juste pour March Madness. Alors, c'est parce que les gens sont rivés. Il y a 8,5 milliards de dollars qui sera misé selon The American Gaming Association. On parle de 70 millions de braquettes soumises par des fans de basket universitaire qui veulent simplement faire leur prédiction, comme tu te prépares à faire ton pool de baseball. Ça cannibalise le scénario, l'environnement du sport américain pour trois semaines. Alors, les autres sont obligés de, si tu me permets l'expression, de se tasser un peu pour faire place à la NCAA. Tout le monde suit la NCAA. Il n'y a rien de comparable. C'est magique. Et c'est, d'année en année, là, un festival de revirements, de négligés qui l'emportent aux dépens des favoris.
Oui.
Et ça se termine toujours par des matchs extraordinaires, souvent gagnés à la dernière seconde.
Absolument.
C'est vraiment palpitant.
OK. On vient de découvrir depuis 4-5 mois une jeune femme qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Bianca Andreescu. Elle a gagné Indian Wells dimanche dernier contre toute attente. À chaque fois qu'elle jouait un match, on pensait que, finir le match puis dire ben elle a eu une belle semaine, mais finalement, elle surprenait tout le monde puis elle gagnait. C'est quoi? Est-ce qu'il est trop tôt pour évaluer son potentiel de commandite?
Oui. Je pense que pour le moment, là, il faut regarder ça de façon très concrète. Contrairement au tennis masculin qu'on a parlé plus tôt, le tennis féminin est complètement ouvert. Malgré le retour de Serena Williams, Serena ne sera jamais la dominatrice qu'elle était. C'est des jeunes dames qui aspirent de semaine en semaine. C'est un peu comme le golf masculin. Difficile de prédire qui va gagner le Masters, mais difficile de prédire la semaine passée que Rory McIlroy allait gagner le TPC. Bianca connaît une saison extraordinaire. Elle a 18 ans. Elle sort d'une fédération de tennis qui vraiment là mérite beaucoup d'applaudissements, Tennis Canada. c'est pas la première, c'est pas la dernière non plus. Félix Auger-Aliassime, évidemment, là, Denis Shapovalov puis Milos Raonic qui ont fait des siennes, mais à 18 ans, il y a tellement d'embûches devant elle sur son parcours. Il faut y aller une journée à la fois, une semaine à la fois. Il faut améliorer sa préparation, éliminer les distractions, s'assurer qu'elle continue de combattre à chaque fois qu'elle améliore son tennis, qu'elle ne se laisse pas distraire par l'aspect commercial. Mais d'un autre côté, dans un tournoi, elle a fait 1,3 million la semaine passée, puis ses gains en carrière auparavant, c'était 350 000.
Exact.
Alors, il faut qu'elle en profite. Mais elle sera jugée par ses qualités et ses prouesses sur le terrain. Et au fur et à mesure qu'elle va s'établir comme une des meilleures joueuses au monde, ah ben là, les ententes commerciales vont pleuvoir autour d'elle. Mais les gens ne sont pas prêts à prendre un risque immédiatement vis-à-vis une jeune comme ça, parce qu'il y en a tellement de jeunes compétitrices qui sont de son niveau. D'une semaine à l'autre, ça peut changer.
Mais en même temps, c'est peut-être mieux d'investir maintenant pour une jeune qui a un bon potentiel plutôt que de le faire dans 2 ans quand ça va peut-être coûter plus cher.
Oui, ça, c'est ta raison à 100%, parce que pour une entreprise canadienne qui décidait de dire « nous, on va l'appuyer
oui. »,
comme je pense toujours à Brooke Henderson au golf.
Exact.
Brooke Henderson, graduellement…
CN, entre autres. Là.
CN,
oui.
Je pense qu'elle a RBC aussi.
Oui.
Elle a beaucoup de partenaires qui ont cru en elle très tôt.
Mm-hmm.
Et là, aujourd'hui, récolte le fait que Brooke, elle est stable, elle est constante, elle est sérieuse, elle est toujours parmi les meneuses le dimanche.
Oui.
Alors ça, c'est un investissement qui aura valu la peine. Alors, oui, je crois qu'il faut croire en elle, mais il faut, mettons, mesurer okay. nos attentes et garder en perspective, parce qu'il y a des bonnes joueuses qui, d'une semaine à l'autre, peuvent apparaître des pays de l'Est de l'Europe et ainsi de suite, puis qui peuvent la supplanter du jour au lendemain. C'est très difficile de gagner régulièrement dans la WTA.
Absolument. Un gros merci, Ray. Bonne soirée à toi.
Salut Dan, merci à toi.
À bientôt. Ray Lalonde, expert sport et business, à qui on a le bonheur et le privilège de parler plusieurs fois par année dans l'avant-match.